au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 7 avril, avec un peu d'ironie, on pourrait surnommer cette émission « En attendant la disparition de l'Iran » avec l'ultimatum de Trump. On verra ce qui se produira ce soir. À l'émission avec Jacques Plante, un vent de discorde qui commence à souffler sur le Parti québécois dans la sélection des candidats en vue de l'élection de cet automne. Avec nous également Isabelle Perrault, la préfète de la MRC de Matawinie, sera question des barrages vétustes. Pierre-Luc Belrose, maire de Joliette, sera là aussi. On va parler d'Hydro-Joliette qui veut donner un coup de pouce aux ménages qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Également, la ministre Mélanie Joly et le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, seront là. On va parler d'un important investissement du gouvernement du Canada pour soutenir l'industrie de l'acier. Mais tout d'abord, Bernard Drainville qui affirme que sous sa gouverne, la CAQ fondée par François Legault sera celle du véritable changement. Il parle d'un parti qui fera les choses autrement et qui ne répétera pas les erreurs du passé. Et avec des appuis de taille comme ceux de Simon-Jolin Barrette, Sonia Bélanger et Jonathan Julien en fin de semaine, il sera convaincre, dit-il, les membres indécis, puis les électeurs en vue du scrutin d'octobre. Un entretien que François Morin a réalisé avec notre analyste politique Mathieu Bélanger.
Certains membres, peut-être. C'est sûr qu'il y a un certain... Une certaine montée d'appui ou en tout cas d'attention médiatique à tout le moins envers Bernard Drainville dans cette course à la chefferie-là de la Coalition Avenir Québec. Depuis quelque temps, il a relativement bien performé dans les deux débats qui l'ont opposé à Christine Fréchette. Il dit que dans le pointage de son équipe, que quand même des bons appuis, mais bon, les chiffres de pointage, c'est pas la source la plus scientifique d'information non plus. Donc oui, un bon gain là pour Bernard Drainville, certainement, avec les appuis là des ministres Simon-Jolin Barrette, Sonia Bélanger et Jonathan Julien. Donc justice, santé et transport respectivement. Un bon appui, mais en même temps, quand on compare ça à Christine Fréchette, elle aussi elle a beaucoup d'appui et notamment des ministres. Vraiment, le caucus et surtout le conseil ministre est beaucoup plus derrière elle que derrière lui. Pourquoi on en parle, par contre, de ces appuis-là de Bernard Drainville? Ben, c'est que le vote, en fait, comme pour la chefferie à la CAQ, commence aujourd'hui. Et donc, d'avoir trois ministres de premier plan qui se rallient comme ça, ça peut redonner un certain souffle à sa campagne en ces derniers temps, justement, avant le début du vote. Est-ce que ça va être suffisant? Ben, on le saura la semaine prochaine. C'est toujours ça la réponse plate, mais la seule bonne réponse. Lorsque on aura le résultat, c'est toujours difficile à prévoir une course à la chefferie, étant donné que, comme Bernard Drainville aime bien le rappeler par ailleurs, mais il a raison là-dessus, dans les différents sondages d'opinion publique qu'on voit, ben, on demande aux sympathisants caquistes pour qui ils pensent voter, mais on ne demande pas nécessairement à des gens qui sont membres, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est le parti seulement, c'est à l'interne qui sait qui est membre du parti politique. Et donc, il peut y avoir une différence. Généralement, c'est des bons indicateurs quand même. C'est pour ça que les firmes de sondage vont poser ces questions-là, que les médias vont publier ces réponses-là. Mais on ne sait jamais. On pourrait avoir des surprises, justement, avec la fin de campagne plutôt positive de Bernard Drainville. Mais est-ce que l'avance, ce qui semblait être une avance insurmontable de Christine Fréchette va justement être demeurée insurmontable ou pas? Ben là aussi, on le saura la semaine prochaine.
Bernard Drainville le clame sur tous les toits. Il dit incarner le changement. Les trois nouveaux ministres adhèrent à cette idée de changement. Sauf que dans la population, oui, on veut du changement, mais on veut pas de la CAQ.
Clairement qu'entre lui et Christine Fréchette, il a plus été capable de démontrer comment qu'il était une voie de changement par rapport à ce que la CAQ proposait jusqu'à maintenant. Ça, c'est assez clair. La première question va être, est-ce que c'est le changement souhaité par les gens de la CAQ? Bernard Drainville, il ne s'en cache pas, propose un virage à droite, plus proche des idées du Parti conservateur du Québec. Est-ce que c'est ça que les caquistes, les membres de la CAQ souhaitent? On le saura la semaine prochaine. Après ça, est-ce que c'est ça que la population veut? Ben, quand on regarde des chiffres, c'est pas le Parti conservateur du Québec qui mène dans les sondages présentement. On n'est pas du tout là. La bataille est beaucoup plus entre le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. en ce sens-là, est-ce que ce que les Québécois et Québécoises veulent? Probablement que la réponse est non. Par contre, et là la nuance est importante, dans la région de Québec, là, il y a des appuis pour le plus important pour le Parti conservateur du Québec. Là, le Parti conservateur du Québec est compétitif. Et là, effectivement, peut-être que c'est ce que les personnes qui vont voter vont vouloir. Et peut-être que ce virage-là, mais là, il y a beaucoup de peut-être dans ce que je dis, c'est volontaire. Donc, peut-être que un virage comme celui que propose Bernard Drinville permettrait de sauver quelques meubles à la Coalition Avenir Québec dans la grande région de Québec, peut-être à d'autres endroits ici et là dans la province aussi, en allant gruger du vote conservateur. Ça serait vraiment pas suffisant pour former un gouvernement si la tendance se maintient, ou même d'être l'opposition officielle, mais il est possible que ce soit suffisant pour avoir quelques députés, alors que sa tendance se maintient toujours avec Christine Fréchette. La démarcation avec la CAQ est présente, mais beaucoup moins. Et donc, il est plus possible que le Christine Fréchette, chef de la CAQ, ait plus de difficultés à sauver quelques députés. Mais là encore, on est beaucoup dans la politique-fiction. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer jusqu'à cet automne. D'abord, ben la semaine prochaine, justement, déterminer qui va être à la tête de la CAQ. Et donc, qui va être première ou premier ministre du Québec, les décisions que cette personne-là va prendre d'ici cet automne, la campagne électorale de cet automne, avec nous l'oublions pas quand même, Charles Milliard, qui demeure un inconnu à ce stade-ci, avec cette personne-là à la tête de la CAQ, qui est un peu plus connue, mais pas comme chef de parti politique, va donc devoir se faire voir. Et on sait qu'entre une course à la chefferie, et les promesses qu'on fait là, dans une course à la chefferie, et lorsqu'on est dans la vraie élection, qu'on parle plus juste à nos membres, parce que c'est ça une course à la chefferie, on parle à nos membres, mais là, lors d'une élection générale, on doit parler à l'ensemble de la population, ou le plus possible à tout le moins, ben, des fois, il y a plus de nuances, il y a plus de différences, finalement, par rapport à ce qu'on a proposé lors de la course à la chefferie. Mais toutes ces variables-là, et toutes les variables qu'on ne connaît pas encore, tout ce qui va arriver cet automne, ben, ça peut rebrouiller les cartes. On l'a vu l'an passé aux élections fédérales, les choses peuvent changer. On l'a vu juste dans les dernières semaines avec la montée du Parti libéral du Québec qui redevient compétitif. Donc, difficile pour la CAQ, peu importe qui va être à la tête. Et on verra ben, la semaine prochaine dans un premier temps et cet automne avec les élections générales pour la suite des choses.
En terminant, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres sorties publiques compte tenu que le vote est commencé?
C'est toujours possible, mais ça devient beaucoup moins intéressant et stratégique de la part d'un des deux clans, la CAQ. Étant donné justement que le vote commence là, on veut marquer les esprits avant le début du vote. C'est pour ça aussi, on peut l'imaginer que les trois appuis récents à Bernard Drinville ont été faits justement hier, puisque le vote commençait aujourd'hui. À partir de maintenant, même si les appuis, ben, c'est mieux les sortir quand même que de ne pas les sortir, étant donné que le vote s'étale jusqu'à la semaine prochaine. Mais ça devient beaucoup moins intéressant. Des gens auront déjà voté, des gens qui auraient peut-être pu être convaincus qu'avec tel ou tel appui de changer son vote de bord, ben, il peut plus le faire puisque le vote est déjà fait. Donc, ça serait étonnant. C'est pas impossible. Pour le reste de la semaine, on va quand même entretenir le feu. Surtout, l'objectif maintenant n'est plus pour les partisans là, de Bernard Drinville ou de Christine Fréchette de convaincre les gens de voter d'un côté ou de l'autre. Le but maintenant, c'est de convaincre les gens d'aller voter. Et des appuis peuvent servir parfois à ça, de montrer qu'il y a un momentum, de rappeler que la course à la chefferie qui existe, de rappeler que là, faut voter, et donc de motiver les gens à aller voter. Mais on va beaucoup plus être dans les petites annonces courant des prochains jours, et surtout les appels de terrain pour rencontrer les gens, on peut l'imaginer, et justement appeler les gens caquistes qui sont déjà membres de la CAQ à aller voter pour choisir la prochaine personne qui va être première ou premier ministre du Québec.
Voilà, c'est François Morin qui s'est entretenu avec notre analyste politique Mathieu Bélanger. Chose certaine, bon, on commence à voter là, pour la chefferie de la CAQ, mais cette course à la chefferie n'a pas réussi à aller chercher beaucoup de nouveaux membres à la coalition Avenir Québec. Dans un instant, la ministre Mélanie Joly et le maire de Repentigny, Nicolas Dufour.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquatelle longue durée, restauration des phares et bien plus. un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 Principal à Saint-Félix. Lustre-auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
La Chambre de commerce du Grand Joliette invite les gens d'affaires à son événement Jazz et Bouffe, présenté par La Turquoise le 15 avril prochain. La formule? Venez réseauter à la Maison de la musique René Charrette et découvrir toute la richesse de saveurs locales offertes par les traiteurs de la région. Au son d'un trio de jazz, 15 artisans de la restauration vous feront découvrir leur offre corporative et leur créativité culinaire. Une occasion parfaite pour goûter aux bouchers qui font leur réputation, dénicher de nouvelles idées savoureuses et pourquoi pas, trouver votre prochain coup de cœur culinaire pour votre prochain party de bureau. Billets en vente dès maintenant au ccjj.qc.ca.
Ici Mark Carney. Face aux menaces croissantes, notre nouveau gouvernement se bat pour protéger notre économie, notre avenir et notre souveraineté. Pour réussir, nous avons besoin d'une équipe de députés qui travaille avec un objectif commun, nous rendre plus forts. Voilà ce qui est en jeu dans la prochaine élection partielle à Terrebonne. Cette fois-ci, joignez-vous à moi pour bâtir un Québec fort et un Canada fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Lanaudière PM. Économie.
16h18, Développement économique Canada remet 1 million de dollars à CSF International de Repentigny pour permettre à l'entreprise d'acheter de l'équipement neuf et de se positionner dans un marché qui est bouleversé, on le sait, par les tarifs américains. Et la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, était de passage à Repentigny aujourd'hui là, pour annoncer un soutien de 64 millions de dollars à 99 PME québécoises dans le domaine de l'acier. Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, s'est aussi réjoui de cette annonce et Régent Turgeon les a rencontrés.
Madame Joly, une importante annonce ce matin là, dans le secteur de regardeur à Repentigny. CSF International. Pourquoi CSF est dans le contexte actuel?
Bien, parce que CSF est une entreprise emblématique, une entreprise qui a été affectée par les tarifs de Donald Trump sur l'acier, puis en même temps qui a été capable de s'organiser pour pivoter et malgré tout, continuer sa croissance. Et comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait en augmentant leur productivité, en achetant des nouveaux équipements, en diversifiant leur marché. Et donc, tout ça a été fait notamment avec l'aide du gouvernement. Nous, on a investi 1 million de dollars ici. Ça a fait en sorte de maintenir environ 60 emplois. Puis, ça a permis aussi à l'entreprise, qui est quand même une entreprise de 400 personnes, de pouvoir continuer sa croissance.
Mais la guerre tarifaire n'est pas terminée pour autant. On devra continuer à s'ajuster.
Oui, absolument. Et donc, c'est pour ça que nous, on doit être capable d'aider nos entreprises à ne pas baisser les bras, à continuer à saisir les opportunités. On le fait de différentes façons, en faisant en sorte de créer plus de commerce entre les provinces au Canada, parce que on a beaucoup construit notre économie, nos exportations vers nord-sud, en fait, vers les États-Unis, plutôt que est-ouest. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, à aller ailleurs dans le monde, pas juste être dépendant des Américains. Et troisièmement, pouvoir justement investir dans des nouveaux équipements pour augmenter la productivité, parce qu'on sait qu'au Canada, on peut faire mieux en matière de productivité.
Est-ce que c'est une coïncidence, Madame la ministre, qu'on vient de faire une annonce importante dans le sud de la Lanaudière à 6 jours de l'élection partielle dans Terrebonne, quand même?
Bien, c'est sûr qu'on aime beaucoup les gens de Terrebonne, mais on aime beaucoup les gens de Repentigny. Moi, je suis une fille qui a grandi à Laval. Ma famille est partout à travers la belle région des Basses-Laurentides et de la Naudière. Donc, pour moi, c'est pas inhabituel d'être ici. Je suis venue à plusieurs reprises. Maintenant, on cherchait des entreprises qui pouvaient être... qui avaient reçu du financement. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'entreprise CSF International, mais la réalité, c'est que c'est 99 entreprises partout à travers le Québec qui vont recevoir en tout pour tout 64 millions de dollars. Puis, ça nous permet de maintenir 1123 emplois. Donc, oui, on est à Repentigny, mais c'est tout le Québec présentement qui va pouvoir en bénéficier.
Et ça fait ressortir l'importance de la résilience pour nos entreprises québécoises dans des domaines très affectés comme justement l'acier.
Absolument. Donc aujourd'hui, on se concentre sur l'acier. C'est sûr qu'on va se concentrer aussi en même temps sur l'aluminium. Il y a d'autres bonnes nouvelles qui arrivent pour le secteur de l'aluminium. Puis bien, vous me reverrez ailleurs au Québec. Donc je me promène un petit peu partout à travers notre magnifique province, mais aussi partout à travers le Canada parce que je m'occupe aussi de tout le pays. Donc ça me fait plaisir d'être... de répondre à vos questions aujourd'hui, mais de répondre à des questions des journalistes partout au pays aussi.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Merci. Nicolas Dufour, maire de Repentigny. Quasiment une visite surprise là, de Mme Jolie à Repentigny pour une annonce majeure qui est réjouissante.
Oui, vraiment, on a eu des bonnes nouvelles pour l'entreprise CSF, là, qui est justement dans l'aluminium notamment. Et on sait avec la guerre tarifaire, là, ça a eu des impacts sur leur possibilité de croissance. Mais on a des entrepreneurs qui sont créatifs, qui ont été en mesure de se retourner. Aujourd'hui, avec Développement économique Canada, le gouvernement du Canada, Mme Jolie, vient annoncer une aide financière directe à l'entreprise pour des équipements modernes. Alors, c'est beau de voir que les entreprises de Repentigny sont en pleine croissance. On connaît le défi qu'on a avec le peu d'espace qu'on a, mais c'est beau de voir que nos entrepreneurs sont créatifs pour réussir à continuer à croître.
C'est sécurisant pour l'ensemble des entrepreneurs du parc industriel de voir qu'un de leurs collègues a reçu cet argent-là, 1 million quand même.
Oui, effectivement, parce que CSF fait aussi affaire avec des entreprises qui sont dans le parc industriel comme sous-traitants. Donc, c'est toute une grappe là, dans le secteur industriel de Lagardère qui est préservée. Et on sait que l'entreprise était déjà bien en selle avec les reins solides, une entreprise qui est en pleine croissance, mais là, on voit qu'ils sont en mesure, avec l'annonce d'aujourd'hui, de peser sur l'accélérateur. Donc, c'est une excellente nouvelle pour l'économie de Repentigny.
Régent Turgeon qui rencontrait le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, ainsi que la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
La ville de Joliette et Hydro-Joliette consentent à donner un coup de pouce aux ménages qui peinent à joindre les deux bouts. Hydro-Joliette qui permet maintenant de verser sur 12 mois les sommes dues qui constituent de mauvaises créances. Et François Morin en discute avec le maire Pierre-Luc Bellerose.
Ben, concrètement, ce qui a changé, c'est surtout, je dirais, la flexibilité puis l'accompagnement. On permet maintenant aux citoyens là, à plus faible revenu qui sont accompagnés par la CEF, là, qui est un organisme communautaire qui aide là, les citoyens au niveau de la gestion de leurs finances personnelles, d'étaler leurs dettes jusqu'à 12 mois, ce qui avant était peut-être pas aussi structuré. Donc, on donne la possibilité de choisir une date de paiement qui est mieux adaptée à leur réalité financière. Donc, on passe d'une approche qui était plus administrative, une approche plus humaine, qui est mieux encadrée, puis mieux adaptée aux situations individuelles, tout en gardant, par exemple, des règles là, claires et responsables, un peu à l'image d'Hydro-Québec, parce qu'on est assujettis essentiellement là, aux mêmes modalités. Donc, si on fait un avant puis un maintenant, là, avant, on avait des ententes possibles, mais qui étaient plus limitées, moins encadrées avec des partenaires externes, puis il y avait moins de flexibilité dans la durée de remboursement. Aujourd'hui, ben, on a l'étalement des dettes jusqu'à 12 mois pour les clients qui sont accompagnés, comme je le disais, par la CEF avec une approche structurée, bon, ce qui veut dire ben, une preuve de revenu, puis un accompagnement, puis un suivi par l'organisme. Par contre, ce qui n'a pas changé au niveau des débranchements, ben on maintient là, les projections, il n'y a pas des protections, c'est-à-dire il n'y a pas de débranchement en hiver, il y a une analyse des conditions météo, un rebranchement obligatoire en décembre. Ça, c'était déjà en place. Il n'y a pas de paiement encore par carte de crédit parce que vous comprendrez que les coûts sont trop élevés là, pour la ville. Donc, c'est une décision de saine gestion. Donc, ça tourne pas mal autour de ça, les changements qui ont été apportés. Il faut comprendre aussi qu'il y a des clientèles là, plus spécifiques comme celles qui sont dans les offices municipaux d'habitation où il y a des PSL. Donc, maintenant, on a une situation qui est un peu moins clarifié parce qu'on sait qu'il y a des exclusions de clientèle, des coûts d'électricité qui sont déjà couverts dans leur programme. Donc ça vient, je dirais, ça ne fait pas nécessairement partie du narratif d'aujourd'hui, mais essentiellement, on vient répondre à des besoins qui avaient été identifiés par la SEF puis par certains là, consommateurs. Puis on veut aussi être équitable parce qu'on sait qu'il y a des citoyens aussi qui sont éprouvés, les différentes hausses de coûts, l'inflation, mais qui vont continuer quand même là de faire leur paiement puis qui font des sacrifices. Donc on veut garder aussi cette équité-là.
Ça découle de quoi ce changement dans les façons de faire du côté d'Hydro-Joliette? Est-ce qu'il y a eu des plaintes officielles?
Ben, il y a eu une démarche qui a été initiée par des groupes communautaires, dont la SEF qui avait eu une sortie là dans les médias. Donc, j'ai demandé à ce qu'il y en a en compte, parce que je pense pas qu'on règle nos problématiques là par l'intermédiaire des médias. Donc, j'ai dit, écoutez, moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des enjeux de ce côté-là. Personne m'avait vraiment interpellé. Puis, faut dire que c'est quand même minime. Là, c'est pas, on compte pas ça par centaines de cas, mais tout de même, on le sait, avec la pression de plus en plus persistante dans les finances de tout le monde, ben il y en a qui sont impactés aussi au niveau de l'électricité. Puis nous, nos tarifs, faut le répéter, ce sont les mêmes qu'Hydro-Québec, donc il n'y a pas de tarifs plus élevés de notre côté. Par contre, il y a toujours des augmentations là qui sont proposées puis entérinées au niveau de la régie. Donc, ça vient créer toujours un fardeau fiscal plus grand. Les citoyens se voient impactés. Donc, on a eu des demandes dans ce sens-là de voir comment qu'on pouvait être plus agile, comment qu'on pouvait avoir une approche plus humaine. Puis en même temps, il faut comprendre aussi que nous, on a une réalité un peu différente parce qu'Hydro-Québec, s'il y a des problématiques au niveau d'un non-paiement, la personne déménage, mais mis à part les 10 villes, la distributrice, ben il y a un moyen de se faire rembourser. Tandis que nous, il y a un citoyen qui a une facture non payée qui décide de déménager à Montréal ou qui décide de déménager peu importe où au Québec, mais nous, à ce moment-là, on perd là, cet argent-là. Donc, il y a cette réalité qui est un peu différente par rapport à Hydro-Québec là, pour être en mesure de se faire rembourser aussi. Donc, on essaie d'être le plus humain possible, tout en respectant aussi les modalités puis les règles là, qui nous encadrent.
Le fait de pouvoir étaler les paiements sur 12 mois, ça évite, entre autres, j'imagine, là, de se faire couper même en été.
Oui, ben il y a différentes ententes. On parle de 12 mois, mais il va y avoir vraiment un suivi là, par la SEF, là, qui est l'organisme mandaté, justement pour éviter là, ce genre de problématiques-là ou de situations de vulnérabilité, parce qu'aujourd'hui, on le sait, sans électricité, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est vraiment qu'il y ait un accompagnement là, personnalisé pour éviter là, qu'on se retrouve avec des ruptures de service. S'il y a moyen de trouver des ententes de paiement ou qu'il y a vraiment une vigie d'assurer avec ces personnes-là qui peuvent là, avoir des problèmes au niveau financier ou parfois aussi, pas nécessairement uniquement au niveau financier, mais qu'il y a une prise en charge qui est nécessaire. Donc, comme ça, on a un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Là.
Dernière question. Advenant le fait où on se rend compte que les gens font quand même des efforts pour payer certaines mensualités, mais qu'au bout de l'année, ils n'ont pas remboursé complètement ce qu'ils devaient, comment ça fonctionne?
C'est sûr qu'à un moment, quand on arrive là au bout de l'équation, puis on voit qu'on est loin, du compte, ou il va y avoir une analyse de fait tout ça. C'est pour ça que l'accompagnement est important par rapport à la SEF là, qui entre en ligne de compte. Parce qu'avant, on n'avait pas cet accompagnement, on n'avait pas nécessairement cette collaboration. Donc, c'était plus difficile de jauger parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent tenter là, de profiter d'une situation. Je vous dis pas que c'est la majorité, mais il y a toujours des gens là, qui essaient là, de profiter du système, là, entre guillemets. Donc, nous, ce qu'on veut s'assurer aussi, c'est de bien accompagner la personne, de s'assurer, oui, au niveau financier, mais qu'il y ait une prise en charge. Donc, on veut, autant que faire se peut, ne pas couper l'électricité. Vous comprendrez que c'est pas notre objectif, mais il vient un temps aussi où on doit respecter les règlements, où on doit respecter ce qui est en place aussi par respect par d'autres personnes qui serrent la ceinture, qui peut-être sacrifient d'autres choses pour être en mesure de payer leurs factures. Donc, une question d'équité aussi, ultimement, dans tout ça. Là.
Voilà, c'est François Morin qui a parlé avec le maire de Joliette, Pierre-Luc Belle-Rose.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ouais, je vous parle tout d'abord de Joliette, fermeture dans les deux directions là, du pont Babi, ce qui fait que Saint-Charles-Borromée-Nord est très, très chargé actuellement entre Manceau et la rue Papineau, si vous préférez, le boulevard Antonio-Barrette. C'est lourd aussi sur Antonio-Barrette actuellement. Ça a eu des répercussions aussi là sur la rue Gautier-Nord. Le Gautier-Nord, c'est lourd jusqu'à Firestone, même passé Firestone, au moins jusqu'à Saint-Thomas actuellement là, du côté de Joliette. Montréal, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, passablement dense depuis, oh là là, Bourget, oui, c'est, je dirais, un peu lent à partir de Bourget, et ça jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN. Pour la suite des choses, ça va bien pour franchir la rivière des Prairies. Repentigny, 40 Est, ça circule très bien. La 341 montée de l'Épiphanie, passablement lourd entre la 40 et la rivière L'Assomption. Pont-le-Gardeur, facile d'approche autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, 25 Nord. Un peu lourd sur le pont Payant, et ce jusqu'à environ 500 mètres passé la jonction avec la 440 du côté de Terrebonne-Mascouche. Ça va très bien. Pont Sophie-Masson circule sans entrave, et finalement, autoroute 640, ça se passe assez bien dans les deux directions entre la 25 et la 40. Dans un moment, l'actualité avec Pierre Jubinville.
C'est la semaine Rona. Des gros rabais du 26 mars au 8 avril. Fait qu'on appelle tout le monde.
Allô?
Julie, sais-tu c'est quoi la semaine Rona?
Des gros rabais chez Rona.
En plein ça!
Allô?
Steve, sais-tu c'est quoi la semaine Rona?
Non, je dormais.
Réveille, Steve! C'est des rabais du 26 mars au 8 avril chez Rona!
OK.
Prochain appel!
Ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Voyons, c'est quoi ce bruit-là?
Quoi?
C'est dangereux?
Ah, non, c'est normal. Je viens juste de partir le lave-vaisselle.
Oh!
Vous êtes vraiment dû pour changer vos électroménagers? CFNJ et Ameublement SJ Dion vous offrent l'occasion parfaite pour ça. Allez vous inscrire à cfnj.net et dites-nous quelle pièce chez vous mérite de la nouveauté et pourquoi. Meubles, matelas, électroménagers, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Du lundi au vendredi à 8h15, l'équipe de Lanaudière AM appelle une personne qui devient finaliste pour le tirage du 11 avril à 16h. 2 500 $ à dépenser chez Ameublement SJ Dion.
Dis, on s'inscrit?
Concours réservé aux membres. Pour les détails du concours ou pour devenir membre, visitez cfnj.net.
Savez-vous pourquoi les gens aiment tant recommander Promutuelle Assurance? C'est entre autres pour la qualité de leurs conseils.
Et puis pour leur bon prix aussi.
Ah, vous leur avez parlé récemment, vous?
Hey, tu dis, toi. Ça a tellement bien été, là. Mon auto est assuré comme faut, mon homme.
Ah, c'est parfait, ça. Vous allez pouvoir les recommander.
Ah, ben, c'est ce que je fais, là.
Merci beaucoup. Ah, on fait ça ensemble. Pour un service de qualité...
Puis des bons prix.
Choisissez-vous aussi l'assureur qu'on aime recommander.
Son fort.
Des conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la.
L'actualité de ce mardi 7 avril en manchette. Le pont Babi est fermé à Joliette. Près de 20 000 électeurs votent du côté de Terrebonne et assisterons-nous à l'apocalypse en Iran. Tout d'abord, Pierre Jubinville, la glace qui a provoqué la fermeture du pont Babi à Joliette.
Oui, la fermeture a été décrétée, Claude, vers 14h45. Elle est nécessaire pour permettre l'intervention d'une pelle longue portée pour briser un embâcle. Donc, les automobilistes tentent de se sauver du secteur, mais c'est pas simple hein, ce soir. Ils devront donc utiliser des chemins de détour via la rue Saint-Charles-Borromée-Nord, la rue Saint-Thomas ou encore le pont Papineau. Trudeau. Et les municipalités riveraines de la rivière d'Assomption demeurent quand même à l'affût des mouvements de glace. Le travail continu de la rétrograveuse, caveuse, comment qu'on l'appelle déjà?
La grenouille.
La grenouille, voilà, qui tente d'écarter les amoncellements de glace. Comme l'explique le président d'Hydrométéo, Pierre Corbin, le temps froid contribue quand même positivement.
Le froid va couper le ruissellement qui avait été amorcé par la pluie et les températures douces des derniers jours. Maintenant, ce temps froid-là va durer 48 heures et par la suite, les températures à nouveau au-dessus de zéro avec un potentiel de précipitation pourraient occasionner d'autres crues là, sur les différents cours d'eau dans la région de la Naudière.
Maintenant, des milliers d'électeurs de Terrebonne qui votent par anticipation.
On se dirige peut-être encore vers un vote serré. 18 000 électeurs ont voté par anticipation au cours des trois derniers jours dans la circonscription fédérale de Terrebonne, où la partielle aura lieu lundi prochain. Un scrutin qui pourrait faire en sorte que le Parti libéral obtienne une majorité franche à la Chambre des communes.
La libérale Tatiana Auguste avait remporté l'élection de 2025 par une seule voix, mais la Cour suprême a annulé le scrutin en raison d'une irrégularité liée à une adresse postale. Cette fois-ci, moins d'un an plus tard, une victoire de la femme de 24 ans donnerait une majorité franche à son chef Mark Carney.
Je ressens pas nécessairement une pression. Moi, je veux vraiment que ce soit focusé sur les gens de Terrebonne, ce qu'ils veulent, les enjeux locaux.
Sa principale adversaire est la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagné, une économiste qui a été députée de Terrebonne durant 3 ans et qui n'hésite pas à critiquer celle qui a pris sa place durant 9 mois.
Il n'y a aucun dossier qui a avancé. J'ai reçu tellement de plaintes. Il y a des gens que j'ai dû continuer à aider, même si je n'étais plus députée, parce qu'ils ne recevaient aucun service.
Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, Terrebonne.
Mauvaise nouvelle, Pierre, fermeture d'une usine à Joliette.
48 travailleurs de l'usine de rotomoulage Premier Tech, située sur la rue Raoul-Charette, vont perdre leur emploi le 1er décembre. L'entreprise de Rivière-du-Loup rapatrie ses activités dans le bas du fleuve. On y fabriquait des contenants en plastique de l'écoflot, alors que le marché aujourd'hui utilise davantage des cuves en béton.
Début du vote à la Coalition Avenir Québec.
Oui, et après Bernard Drinville, c'est au tour de Christine Fréchette d'annoncer 3 nouveaux appuis dans la course à la direction. Il s'agit du ministre des Affaires naturelles Jean-François Simard, des députés Yves Montigny et Stéphanie Lachance. Alors que M. Drinville croit que ces nouveaux appuis vont l'aider à convaincre les indécis, Mme Fréchette, qui en a 2 fois plus, montre une confiance prudente.
Nous, on a un pointage qui nous donne confiance. On dort bien la nuit. Notre pointage me rend optimiste. Mais en même temps, il n'y a pas rien qui est scellé d'avance. Chaque jour va compter et chaque vote va faire la différence.
Et puis finalement, Donald Trump qui lance des menaces de toutes sortes contre l'Iran.
Ce sera peut-être
l'apocalypse.
Alors, ça risque de sauter finalement. C'est trop bon. Bon, il se fait de plus en plus menaçant à l'approche de l'expiration de son ultimatum. Il ne mâche pas ses mots. Le président américain a écrit sur son réseau social qu'une civilisation entière s'éteindra ce soir. Alors, quoi qu'il arrive, le professeur de l'École supérieure d'affaires publiques et internationales, l'Université d'Ottawa, Thomas Junot, estime que l'Iran restera quand même capable de nuire.
Ça prend quelques missiles et drones pour menacer, juste menacer de frapper des navires pétroliers ou autres dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique, et les navires vont décider de ne pas prendre ce risque-là. Et ça, c'est quelque chose que l'Iran, même affaibli, même très affaibli, sera encore capable de faire après la guerre. Alors, une des conséquences les plus difficiles de cette guerre-là, qui aura le plus de répercussions, c'est le précédent établi de l'Iran qui fait ça.
Bon, ben voilà.
J'allais répéter le mot apocalypse.
Oui. Exercice voilà. De diction. Voilà. Apocalypse, c'est voilà. Comme la chanson de Joe Bocan, Apocalypso.
Oh, ça va être encore plus compliqué.
16h39.
Salut.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. CFNG. Lanaudière PM. Ressources naturelles.
Oui, les 16h39 dans la Naudière et particulièrement à Matawini, des dizaines de barrages ont un urgent besoin là, de travaux de réfection et les autorités gouvernementales sont lentes à réagir. On craint la sécurité des citoyens et même pour l'avenir là, de certains plans d'eau, comme l'explique la préfète de la MRC, Isabelle Perrault, à François Morin.
On est toujours inquiète. Ça fait quelques années là, qu'il y a des inondations, soit au printemps, on en a vu aussi lors là, de la tempête Debby, où est-ce que là, ben nos infrastructures qui sont vieillissantes pour la retenue des eaux sont inquiétantes, en effet. On dort mal des fois, là, parce que les barrages au Québec, mais particulièrement à Matawinie, il y en a vraiment beaucoup qui ont été faites là, dans les années 50-60 pour créer des lieux de villégiature. Ça créait, en faisant un barrage, ça créait un lac qu'on dit artificiel, là. Et les gens pouvaient s'installer alentour pour la villégiature. Fait que c'est sûr que là, ces barrages-là sont vieillissants. Ils appartiennent à toutes sortes d'entités. Là. Parfois, c'est la municipalité. Souvent aussi des propriétaires privés. Parfois même des propriétaires qui, au départ, ne savaient même pas qu'en achetant un terrain ou un chalet, il y avait un barrage qui venait avec. Puis d'autres qui ont été repris là, par le gouvernement, le ministère du Revenu. Donc, toutes ces entités-là ont la responsabilité d'entretenir et de réhabiliter le barrage quand il ne correspond plus aux normes. Mais là, on se retrouve avec des factures absolument astronomiques et c'est l'utilisateur payeur. Là. C'est rarement là, que... Ça peut arriver, là, un barrage sert de route, par exemple. Ben là, tous ceux qui empruntent la route ou qui sont desservis par cette route-là deviennent responsables du barrage. D'autres ont des accès très publics, là, où est-ce que tout le monde peut aller. Donc là, ça peut être possible de tarifer plus de personnes. Mais en général, c'est les gens autour du lac qui bénéficient de la structure, qui doivent le payer. Et là, on se ramasse avec des factures extrêmement salées pour un très petit nombre de personnes.
Et je pense qu'il faut remettre ça en contexte aussi. Il y a presque 3 ans, le gouvernement s'est désengagé en remettant, là, en pelletant dans la cour là, des propriétaires. On parle de municipalités, de citoyens, là, justement, la responsabilité de ces barrages-là.
Oui, en fait, les exigences de sécurité là, de cette infrastructure-là ont augmenté au fil des années. Donc, que ce soit au niveau du ministère de l'Environnement, de l'ingénierie, de la structure comme telle, il y a de plus en plus d'exigences. Puis, je vous le dis, pour en avoir fait là, des réflexions de barrage dans la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, ça peut prendre 10-15 ans avant d'en venir à bout. Entre-temps, les exigences changent, les demandes changent, la façon de faire change. Ce qu'une main dit, l'autre main le défait au gouvernement, c'est vraiment très difficile d'avoir un cahier de charge pour dire, ben voici comment qu'on s'y prend, voici les exigences, les études qui sont demandées pour pouvoir faire la réfection de ce barrage-là. Et les propriétaires, parfois, devant cette immense tâche, puis devant les coûts qui sont associés, ben comme on dit en bon français, lève les drops, là, c'est-à-dire qu'il démantèle le barrage et là, le lac disparaît ou ça baisse de façon très importante. Là. Donc, c'est plus intéressant là, comme plan d'eau, mais pas du tout. Le gouvernement a sorti une subvention pour les barrages publics qui aident. Là. La particularité de cette subvention-là, c'est qu'on ne sait pas d'avance combien ils vont donner en subvention. Donc, vous devez faire tous les travaux, payer toutes les factures et ensuite savoir si, oui ou non, vous aurez une subvention et à quelle hauteur. Donc, c'est pas très... quand les gens veulent se positionner, prendre une décision, savoir, OK, on va le faire réparer, ça va coûter tant, bien, ils savent juste à la fin des travaux. Ça fait pas de sens, là.
C'est difficile d'avoir de la prévisibilité dans ce cas-là. Puis en plus, si un barrage cède ou si le ministère de l'Environnement décide de le démolir, bien là, ça a des impacts en amont ou en aval.
Oui, bien, si un barrage cède, ça peut faire de très graves dommages, soit sur les personnes, mais souvent sur les biens. On l'a vu, là, il y a un barrage qui est cédé à Saint-Alphonse qui a détruit complètement le quatrième rang. Là. Il a fait sauter un pont en amont. Ça peut faire un effet domino, là, cette affaire-là. Donc, les propriétaires de barrages sont imputables, responsables, sont mis en demeure par les gens qui ont eu des dommages. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse responsabilité. Et quand il est démantelé, parfois, ça fait en sorte que, on évite les dommages qu'ils peuvent causer en cédant. sauf que c'est tout l'environnement, hein, toute la faune, la flore qui s'était développée autour d'un plan d'eau, à l'intérieur d'un plan d'eau, qui devient plus du tout là au même niveau. Il y a des animaux qui habitent là, qui ont fait ça peut faire 50, 60, 70 ans là, qu'il y a un plan d'eau. Donc, il y a des dommages à l'environnement qui sont aussi importants. Sans compter la villégiature, là, le lac qui est intéressant pour les humains, qui là, il n'y a plus de lac. Là.
En terminant, est-ce que ça va être un autre des nombreux enjeux électoraux?
Je ne sais pas si ça va aller jusque-là, mais ce que je sais, par exemple, c'est que, puisque j'avais dit au gouvernement il y a quelques années, aux responsables du ministère, c'est que vous nous refusez parce que nous, on voulait prendre en charge la réfection des travaux où les riverains étaient d'accord. Les municipalités, on prend en charge, mais on prend pas la responsabilité du barrage. C'est-à-dire qu'on devient maître d'œuvre des travaux d'infrastructure, mais le propriétaire privé ou l'association d'AC demeure propriétaire du barrage. Puis je leur avais dit, vous nous refusez, ils ne voulaient pas. Donc, vous nous refusez de faire ce que vous allez nous obliger à faire plus tard, parce que des barrages comme ça, il y en a des centaines et des centaines, juste en Matawini. Donc, imaginez à travers tout le Québec, là, ils ont tous été construits au même moment. Donc, ils sont tous susceptibles d'avoir besoin d'une réfection. On en a un là, actuellement là, avec lequel on essaie de trouver des solutions en territoire non organisé au TNO. Donc ça appartient à personne, mais si on défait le lac, ben, généralement, ça a de l'impact sur 2, 3, 4 lacs en amont. Donc, c'est vraiment très, très... ça va être un enjeu très important et qui, ben là, on le voit là, avec les reportages qu'ils ont eus, qui finissent par prendre le haut du pavé, là, puis les gens en discutent parce que ça touche beaucoup de gens et ça touche de façon importante tant leur portefeuille pour la réflexion que leur portefeuille pour la valeur de leur propriété.
Voilà, c'était la préfète de la MRC de Matawini, Isabelle Perrault. Dans un moment, Jacques Plante.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
Envie de manger un bon repas dans une ambiance décontractée? Le CA Resto Traiteur au centre-ville de Joliette propose une cuisine authentique mettant en vedette les saveurs lanaudoises et des produits frais. Découvrez le menu midi unique à toutes les semaines ou encore le menu régulier pour dîner ou souper. Le CA Resto Traiteur offre aussi son service de traiteur personnalisé pour toute occasion. Mariage, réunion d'affaires, anniversaire, corporatif et bien plus. Informations et réservations au 450-394-5880. Le CA Resto Traiteur, 434 boulevard Manson à Joliette.
CFNJ, avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
Québec Redneck Bluegrass Project débarque pour une soirée explosive à Joliette le 20 juin avec le phénomène de l'heure, angine de poitrine et en première partie, l'énergie brute de Blam.
C'est... Quand ça va bien, que c'est un de ces matins.
Le groupe présentera les chansons de nouvel album à venir ce printemps, sans oublier leurs incontournables. Viens célébrer le début de l'été lors d'un show qui promet d'être mémorable au parc Louis Kerb à Joliette. Réserve tes billets dès maintenant au spectaclejoliette.com.
Bonjour, ici François-Philippe Champagne. Dans un monde de plus en plus dangereux, on ne peut pas rester les bras croisés. Mark Carney et notre nouveau gouvernement libéral travaillent sans relâche pour apporter aux Canadiens davantage de stabilité économique, de sécurité et de prospérité. Voilà ce qui est en jeu dans la prochaine élection partielle à Terrebonne. Cette fois, joignez-vous à nous pour bâtir un avenir plus fort pour Terrebonne et tous les Québécois avec Tatiana Auguste et Mark Carney.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Au concert du dimanche à CFNJ, Julien Clerc. Le concert du dimanche matin 7h à CFNJ.
À CFNJ,
Voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Salut Claude Julien, Claire, c'est du bonbon ça.
Oui.
Hein?
Oh, hey, oui.
On se fait aller. Claude, je prends quelques secondes au début du show. Vendredi dernier, je suis au garage, je vais faire la maintenance sur mon véhicule. Mm-hmm. Il y a un monsieur qui est là, qui a un beau gros pick-up, lui aussi, fait faire la maintenance, puis il joue dans ses affaires. Et on se met à jaser, on parle de politique, on parle de satellites et compagnie, les portails du gouvernement.
Oui.
Et à un moment donné, on s'aperçoit que ce monsieur-là nous écoute religieusement. Alors, je voulais le saluer. Il s'appelle Thomas Chiasson. Thomas, ça a été très plaisant de jaser avec toi.
Salut, Thomas.
C'est le fun de jaser avec des gens qui ont des opinions puis qui respectent aussi la tienne et tout ça. On a eu vraiment une bonne discussion.
Bon, ben on va en parler justement de politique.
On appelle ça une discussion, non pas de cuisine, mais de garage.
Oui, de garage. On parle de politique. Il y a un vent de discorde qui commence à souffler sur le Parti québécois dans la sélection des candidats en vue de l'élection de cet automne. On disait que c'est pas les candidats qui manquent au Parti québécois. Il y a à peu près 1000 candidatures. Là.
Ben là, c'est parce que, tu sais, les sondages sont bons. Le parti a le vent dans les voiles. Mm-hmm. Donc, un peu partout, les gens qui vont voir QC125, exemple, ils disent, ah, écoute, gars, là, moi, je suis intéressé à la chose politique. Pourquoi je vais pas?
Ouais.
Donc, c'est ça qui arrive. Et là, ça devient, moi, j'appelle ça un heureux problème de gestion parce que tu peux avoir des femmes et des hommes d'une qualité incroyable.
Ouais.
Là. Et là, ce qui arrive dans le problème, c'est que souvent, on peut donner l'exemple avec la CAQ. Bon, la CAQ, c'était l'état-major de la CAQ qui rencontrait et qui nomme quelqu'un dans une circonscription.
Oui. Au PQ, on a souvent procédé par investiture.
Oui, c'est ça. Et pour moi, ça, c'est de la vraie démocratie.
Oui. Ce sont les membres du parti dans la circonscription qui votent pour le candidat de leur choix.
Ben c'est ça. C'est que, une investiture, c'est pas arrivé souvent, là, où il y a plusieurs candidats, mais j'en ai quand même vécu. Mm-hmm. Et moi, je trouve ça démocratique parce que, d'une part, oublie pas, ça fait vendre des cartes de membres.
Oui.
Hein? Ça fait faire aussi du financement, c'est jamais à mettre de côté. Exemple, si on est dans la circonscription de Joliette, où on pourrait prendre de Berthier, et qu'on a 3 candidats, ben on va augmenter le membership parce que ces gens-là vont vendre des cartes. Et là, il y a une journée où c'est l'investiture comme telle. Donc, il y a des gens dans la salle. Ces gens-là prennent le micro, font un discours carrément. Et les gens de la salle, les membres en règle du parti, vont voter. Et celui qui ramasse le plus de votes, ben il est gagnant.
C'est le candidat.
Et moi, je trouve ça très bien d'utiliser cette façon-là parce que ça permet à la personne de s'exprimer. On peut constater pour les gens assis dans la salle s'ils sont au courant de sa plateforme. Et il serait bon aussi qu'on puisse laisser des personnes poser des questions.
Et là, on parachute de plus en plus de candidats. C'est-à-dire que le chef et l'exécutif décident du candidat au lieu de passer par une course à l'investiture. Par exemple, dans Masson, on a nommé l'avocat Stéphane Enfield. Il y a le cas d'Isabelle Blais aussi dans Masquinongé. Bon, Isabelle Blais fait partie de l'investiture. Il y aura investiture dans Masquinongé. Mais vous pouvez vous dire tout de suite que c'est clairement Isabelle Blais qui va l'emporter. Elle a l'appui de la haute direction du parti.
Oui, mais même encore là, Claude, dans ce cas-là, et je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire, mais dans ce cas-là, au moins, il y a une investiture. Alors, s'il y a quelqu'un, une grosse pointure, comme on appelle en politique, qui se présente, ben là, Mme Blais a à se défendre aussi. Et à ce moment-là, je suis à peu près persuadé, à la lumière de ce qu'il a déclaré, Plamondon va pas s'en mêler, là.
Autre pointure intéressante, Jacques, dans Saint-Maurice, pas trop loin de chez nous, en Mauricie, René Branchaud, qui est un économiste.
Et lui, il a été nommé la semaine dernière, ou il y a 15 jours.
Oui, exactement.
Avec une feuille de route assez impressionnante.
Mais moi, je pense à des gens qui travaillent depuis des années pour pousser au Parti québécois. C'est difficile, c'était difficile. Les dernières années ont été pénibles.
Oui.
C'était la traversée du désert pour le Parti québécois. Il y a des gens qui étaient là puis qui bûchaient. Et là, je pense dans notre région à Julie Boucher du côté de Berthier, qui est d'ailleurs une porte-parole. Je pense également à Véronique Venn, qui avait été candidate dans Joliette et qui est mairesse de Sainte-Marie-Salomé. Est-ce qu'elles seront candidates? Parce que j'ai l'impression qu'on tarde un peu à nommer des candidats.
Mais là, ces gens-là pourraient nous répondre eux-mêmes, hein, si on allait frapper à leur porte.
Aïcha Van Donne dans Repentigny aussi.
Est-ce que actuellement il y a eu des discussions avec les personnes que tu fais allusion? Avec les hautes instances du Parti québécois, quelle est l'implication de l'organisation de circonscription, hein, de voir comment ça fonctionne. Et à partir de ça, les gens qui sont là ont à prendre leur décision. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas?
Mégane Perry-Melançon, en Gaspésie, c'est mm-hmm. une fille qui a beaucoup travaillé, qui a ouais. bûché fort. Pas encore nommée. Je sais qu'il y a un redécoupage de la carte électorale. Là, on va transformer ça en Gaspésie. Il y avait 3 circonscriptions, il y en aura seulement 2. Mais est-ce que Mégane Perry-Melançon va y aller aussi? Et il y avait le cas aussi de Réal Ménard, l'ancien député du Bloc québécois, ancien conseiller municipal à Montréal, là, qui s'est fait refuser sa candidature à l'investiture dans Hochelaga-Maisonneuve. Il est en beau maudit, là.
Oui, mais il est en beau maudit, mais c'est un ancien député du Bloc, hein. Mm-hmm. Il sait comment ça fonctionne d'un parti politique.
Mais c'est ça, justement.
Oui. Non, mais je veux dire, tu sais, je donnais l'exemple tantôt. Il y a des partis politiques qui ont une façon de fonctionner à l'interne, au niveau de la nomination. Moi, je lisais ce que Saint-Pierre Plamondon a dit par rapport au PQ. Et ce qu'il dit, oui, il amène des candidats, des candidates. Mais il dit, attendez-vous à ce que dans certaines circonscriptions, il va y avoir plusieurs candidats et des investisseurs.
Oui.
Et moi, je trouve que ça, c'est parfaitement démocratique, tout à fait. Que de le taxer, de dire, c'est lui qui a nommé telle personne. Parce que tu sais, on va essayer de laver plus blanc que blanc, là. Parce que ça arrive souvent des accidents, des accrochages où on fouille pas bien dans le passé d'un candidat pour des surprises.
Ah oui. Mais dans le cas de Réal Ménard, qu'il se soit fait carrément tasser de l'investiture, je trouve ça un petit peu triste.
Ben, je sais pas. Peut-être qu'elle a une chance de récidiver, de revenir, puis de dire si j'ai vendu. Je sais qu'il y a une personne, je pense que c'est dans les Laurentides, de Saint-Jérôme, qui a vendu plein de cartes de membre, puis elle aussi semble-t-il qu'elle va être tassée. Mais ça reste de la régie interne.
C'est à suivre. Espérons qu'on aura des nominations, là, justement, prochainement, là, dans nos circonscriptions lanaudoises, en vous rappelant que Stéphane Enfield, l'avocat assez intéressant, qui pourrait peut-être se retrouver ministre, par exemple, de la justice.
Ouais. On peut peut-être suggérer.
Il y en aura d'autres candidats comme ça.
On peut peut-être suggérer à nos collègues de la salle des nouvelles de poser des questions à ceux qui ont. Hein, ça pourrait encore éclaircir l'affaire.
Merci, Jacques.
Je te laisse Berthier, moi, prendre la bière.
Salut. Salut. Je remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Mathieu Bélanger, Régent Turgeon, François Morin, Pierre Jubinville et Jacques Plante. Ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. On sera là demain, 16h, pour une autre édition de Lanaudière PM. Merci.